Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Mardi 16 décembre 2025, il est 6h avant minuit. Vous écoutez l'émission d'info locale de Syllab sur Syllab et Radio Boa aujourd'hui. Je le rappelle parce que vous avez encore quelques jours pour faire preuve de générosité avant Noël. Pour notre dernière émission de l'année, on organise une collecte pour les associations Cœur Résistant et Iskis. Donc boissons chaudes, aliments festifs, ingrédients de base pour préparer de bons plats chauds, des vêtements chauds, surtout pour hommes, des couvertures, des oreillers. Pour donner, rendez-vous dans nos locaux sur le campus Villejean, bâtiment RF, deuxième étage, à Rennes. Et pour plus de détails, je vous invite à consulter la publication sur notre page Instagram. C'est 6h avant minuit sur Syllab. La récolte sera transmise aux assos le jeudi 18 décembre, ce jeudi, lors de leur passage dans notre émission. Tout de suite, le flash de Romane.
Des ONG dans le viseur d'Israël. La rédaction internationale de Radio France révèle qu'Israël revoit le système d'enregistrement des ONG opérant à Gaza. Selon un document du ministère israélien de la diaspora, 8 ONG, dont Save the Children, sont déjà interdites d'activité. Cela représente environ 10% des organisations humanitaires présentes dans l'enclave. Israël estime que le système d'aide actuel profite aux groupes armés, en particulier au Hamas. Les nouveaux critères ciblent les ONG soupçonnées de liens avec le Hamas ou celles ayant dénoncé un génocide à Gaza, ce qui inquiète notamment Médecins Sans Frontières et Oxfam, qui ne sont pas pour l'instant concernés. Désormais, seules 12 ONG seraient autorisées à travailler à Gaza, dont beaucoup d'organisations religieuses évangéliques américaines. Une libération de prisonniers contre une levée de sanctions. Samedi, le régime biélorusse a relâché 123 prisonniers et prisonnières politiques, dont plusieurs figures majeures de l'opposition. Une libération intervenue quelques heures après l'annonce par Washington de la levée des sanctions sur la potasse, une ressource clé de l'économie biélorusse. Parmi les détenus libérés figure l'opposante Maria Kolesnikova, arrêtée après les manifestations de 2020, l'ancien candidat de la présidentielle Viktor Babariko, le co-lauréat du prix Nobel de la paix 2022, Aless Bialyatsky. La majorité des détenus ont été expulsés vers l'Ukraine. Plus de 1100 prisonniers politiques restent encore incarcérés en Biélorussie. Les défenseurs des droits humains dénoncent un nouveau marchandage du régime d'Alexandre Loukachenko, accusé d'échanger des vises humaines contre un allègement des sanctions internationales.
Pfiouf, beaucoup de noms difficiles à dire.
Allez,
vas-y, prends ton souffle, ça va bien se passer.
Alors que Matignon a appelé à un report de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, le Parlement européen a validé cet après-midi une clause de sauvegarde. Elle prévoit un suivi renforcé des produits sensibles comme le bœuf, la volaille ou le sucre et la possibilité de rétablir des droits de douane en cas de déstabilisation du marché. Cette main tendue des eurodéputés suffira-t-elle à convaincre la France de se rallier au texte ? Dans un contexte de forte colère du monde agricole autour de la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse, Emmanuel Macron jugeait encore ce matin les garanties insuffisantes pour protéger l'agriculture française. Pendant que l'Allemagne et l'Espagne poussent pour une signature rapide, la France durcit le ton et espère rallier l'Italie pour former une minorité de blocage. Si Rome suit, l'accord pourrait être stoppé. Dans le cas contraire, la France risque l'isolement. Un sommet du Mercosur est prévu ce samedi 20 décembre.
Ah, les feuilles collent, décidément.
C'était très long.
À toi, Romane.
Ça fait 10 mois qu'Emmanuel Macron n'est pas venu à Marseille. Aujourd'hui, un mois et trois jours après l'assassinat de Mehdi Kessaki, il est de retour, mais pas pour soutenir son club de cœur. Son agenda de la journée, la lutte contre le narcotrafic, avec plusieurs visites et rencontres prévues tout au long de l'après-midi. Alors que fait Macron à Marseille ? Estelle nous raconte.
Une visite présidentielle pour plusieurs sujets, lutte contre le narcotrafic, interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ou 16 ans, bilan de Marseille en grand. Le président a commencé sa journée par un recueillement au cimetière Saint-Henri dans le 16e arrondissement de Marseille, où reposent les deux frères du militant anti-narcotrafic, Amine Kessassi. Ce moment n'était pas prévu à son agenda officiel. À midi, direction la tour du CMA-CGM pour rencontrer les lecteurs et lectrices de la Provence. Lors de ce face aux lecteurs, il a annoncé des décisions pour protéger nos jeunes début 2026. Au fil de la rencontre, le lien entre réseaux sociaux et narcotrafic a été largement abordé. Le directeur de la rédaction de la Provence, Olivier Biscay, a interrogé le chef de l'État. Des jeunes sont recrutés sur les réseaux sociaux pour le trafic de drogue, comme la prostitution. Comment judiciairement peut-on aller encore plus loin ? La dernière partie de l'échange porte sur l'impact des réseaux sociaux face aux violences et à la criminalité organisée. Emmanuel Macron a dressé un bilan de l'action menée à Marseille contre le narcotrafic. Il a notamment évoqué le renfort de plus de 300 policiers, la division par deux des points de deal physiques, l'entrée dans une deuxième étape avec la loi narcotrafic. Le président veut rendre possible les poursuites contre les réseaux sociaux au niveau européen et durcir la lutte contre les têtes de réseaux criminels.
En plus, le chef de l'État a confirmé son intention d'augmenter l'amende forfaitaire pour usage de stupéfiants qui passerait à 500 euros. Il faut taper au portefeuille, a-t-il déclaré, estimant que se droguer n'a rien de festif.
Une annonce qui fait vivement réagir et de manière ironique pour Benoît Payan, maire de Marseille. Je cite « Vous pensez qu'un consommateur qui prend le risque de payer une amende de 300 euros va être dissuadé par une amende de 500 euros ?» Pour Arnaud Blaise du syndicat Unité SGP, Police, une augmentation du tarif des amendes n'est pas suffisante.
Malgré le scepticisme des Marseillais, le président garde en tête son objectif principal, agir directement sur le terrain pour renforcer la sécurité.
Pour cela, il est venu inaugurer deux chantiers phares du volet sécurité et justice du plan Marseille en grand, le commissariat du 13e et 14e arrondissement et l'extension de la prison Baumettes. Ces deux chantiers rentrent dans le cadre du plan Marseille en grand. C'est un contrat lancé en 2021 de 5 milliards d'euros d'investissement public, dont l'objectif affiché est de rattraper des décennies de retard dans les écoles, les transports, le logement, mais aussi la sécurité, dans une ville marquée par de fortes inégalités.
Et ce plan se traduit comment concrètement ?
Ce plan, il se concrétise par plusieurs projets, parmi lesquels le nouveau commissariat des 13e et 14e arrondissements, lancé en juillet 2024 et achevé il y a deux semaines. Ces locaux sont situés au cœur des quartiers nord. Ils offrent des espaces spacieux, une centaine de policiers et un centre de tir accessible à l'ensemble des forces de police de la ville. Le président de la République a été accueilli devant le commissariat par le maire Benoît Payan, la présidente de la métropole Martine Vassal et Sabrina Agresti-Roubache. La visite s'est déroulée en présence des ministres de la Justice et de l'Intérieur, Gérald Darmanin et Laurent Nunez, du président de région, Renaud Muselier, mais aussi de proches de victimes de violences comme la mère de Sokaina, jeune étudiante tuée en septembre 2023 dans la cité de Saint-Is, et Amine Kessassi et sa mère. Après cette visite, Emmanuel Macron vient tout juste d'arriver au Baumettes. Lors de son arrivée, les cris de certains détenus ont retenti. L'extension du centre pénitentiaire vient de s'achever, un chantier de plus de 12 ans destiné à ajouter 740 places supplémentaires. La visite présidentielle intervient après plusieurs opérations d'ampleur, fouilles massives au Baumettes, déploiement de 1500 policiers et CRS sur des points de deal, une stratégie assumée par l'exécutif qui revendique des résultats.
Mais cette fois, côté habitants et associations, le souhait est clair. Plus que des annonces, ils attendent des actes concrets. Le maire Benoît Payan va dans ce sens. J'attends du président des faits et des actes. C'est un coup pour le droit à l'information. Aujourd'hui, le Sénat a acté la liquidation de l'Institut National de la Consommation, INC, et de son magazine emblématique 60 millions de consommateurs, par l'article 71 du projet de loi de finances pour 2026. Un texte qui prévoit la fermeture et la vente de l'INC, un média public indépendant dédié depuis plus de 50 ans à la défense des consommateurs face aux abus économiques et financiers. 60 emplois sont menacés, des journalistes, des techniciens, des enquêteurs. Dans une tribune du journal Le Monde, un collectif de responsables politiques, syndicaux et associatifs affirme que détruire un contre-pouvoir, c'est fragiliser la démocratie. Derrière l'argument budgétaire, une question se pose. Est-ce vraiment une économie nécessaire ou une volonté de faire taire une voix trop critique ? Régine Comot-Colli, privée de délégation. Hier, la majorité départementale d'Ille-et-Vilaine a annoncé soutenir le président du Conseil, Jean-Luc Chenu. Cette décision intervient suite à l'exclusion de l'élue Régine Comot-Colli au sein de la délégation. Concrètement, l'élue rennaise aurait eu des prises de position publiques jugées contraire aux décisions et au fonctionnement de l'exécutif départemental. Pour la majorité de la gauche et les écologistes, les agissements de Régine Comocoli ont entraîné une perte de confiance, d'où cette décision collective. Régine Comocoli gérait depuis 2021 la protection maternelle et infantile. Elle conserve son siège de conseillère départementale. Et c'est parti pour le trambus de Rennes. Les travaux de la future ligne de trambus T2 débuteront en janvier 2026. Elle reliera Vezin-le-Coquet et Cesson-Sévigné, en passant par la rue de Lorient, le Mail François Mitterrand et les quais. Premier chantier dans quelques semaines sur la rue de Lorient, entre la Rocade et le boulevard Marbeuf. Les travaux sont programmés jusqu'à fin 2027. Au total, 37 millions d'euros d'investissement pour une ligne de près de 15 km et 32 stations. Objectif, jusqu'à 19 000 voyageurs par jour et voyageuses, avec un passage toutes les 7 minutes aux heures de pointe. Le projet prévoit aussi des pistes cyclables, des espaces végétalisés et des parkings relais. Mardi 25 novembre dernier, BU de Rennes 2, vers 20h, Eva a verdoyé à Verdoyon, le festival culturel au cœur des questions environnementales. Assise au premier rang de trois rangées de chaises remplies, elle a écouté un homme, passionné d'un fruit qui traverse l'histoire, les contes et les langues, et dont le destin est entre nos mains.
Aujourd'hui, plus que de dresser un terrible constat sur l'inéluctable destin de notre espèce, j'aimerais vous dire à quel point j'aime les pommes.
Bienvenue dans le monde de Rémi.
Et à quel point je suis fâché de savoir que ce fruit va disparaître, pas demain ni après-demain, mais bientôt.
Où la pomme est centrale, mais où le fil est fréquemment perdu.
J'en étais où ? La peau de la pomme, c'est super. C'est bien.
Ne vous méprenez pas, c'est un expert en la matière qu'est la pomme. C'est le fruit de ses recherches.
Manger la peau de la pomme, c'est une excellente façon de maximiser ses bienfaits nutritionnels. On peut pas être plus clair.
Avec son projecteur, ses lumières et ses dessins, Rémi anime une vraie conférence. Seul, Rémi est le fruit de l'imagination du spectacle « La pomme, c'est délicieux » de Romain Duquesne, interprété par Niels Gauthier.
Ce personnage-là, il a bien étudié tout ce qu'il fallait pour faire une bonne conférence, donc il se dit qu'il faut qu'il y ait de l'interaction, qu'il y ait de l'échange, qu'il fasse participer les spectateurs. Et en fait, avec son innocence et sa bonne volonté, il emmène les gens dans son histoire et il les invite à participer.
Que ce soit à travers les sciences de Newton ou les récits de Blanche-Neige et Adam et Ève, la pomme est étroitement liée à notre société, nous rappelle Niels.
Ce spectacle-là, c'est parti d'une recherche au départ du travail sur les enfants sauvages. Donc notre rapport à l'éducation, c'est-à-dire que les enfants sauvages, souvent, ils ont été pris en charge par des pédagogues. Et on a élargi la réflexion autour des rapports de domination, que ce soit dans la pédagogie ou de l'humain sur la nature, des humains sur d'autres humains, les hommes sur les femmes aussi. Ça questionne un peu tous ces rapports de domination dans la société et dans l'histoire.
Un message et un spectacle qui ont touché Yuri, Louis ou encore Léna.
J'aime bien, c'est assez simple, c'est assez efficace. C'est de partir, je sais pas, du trivial. Est-ce qu'on serait prêt à perdre toutes ces petites choses qu'on aime ? Et du coup, ça redonne un petit peu d'importance. Le comédien qui nous a accueillis était fortement sympathique et je repars avec le sourire.
Si vous aussi vous souhaitez nourrir votre savoir sur la pomme, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de la compagnie de théâtre du 3e acte. Et c'est bientôt la fin de la 5e édition du festival Verdoyon, porté par l'université de Rennes 2. Il reste encore quelques jours pour en profiter.
Merci pour ton flash, Romane, et c'est au tour de Lafken de prendre le micro pour l'interview.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
Zéro heure.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
Barbe et lunettes, ce soir nous recevons Fouad Souak, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais vous n'êtes pas seul, les auditeurs et auditrices l'avaient peut-être entendu intervenir pendant le Flash Info. Votre fille est avec nous aussi ce soir, est-ce qu'elle veut dire bonjour ?
Tu dis bonjour ?
Non,
avec
elle fait un grand nom.
On n'a pas le coup de la radio.
Vous avez déjà reçu un petit bébé de 2 ans et demi ?
Non, jamais, c'est une première. C'est comme ça qu'on fait aimer la radio aux futures générations, je pense.
Ouais, c'est ma mission.
Elle sera ici dans quelques années. Et en tout cas, Fouad Souak, vous êtes entrepreneur, fondateur de la boutique narrative et d'influence Précis. Entre médias, conseils et créations, pour vous, dans une économie saturée, les meilleurs produits ne gagnent pas toujours, ce sont les mieux compris qui l'emportent. Mais vous êtes également le fondateur du podcast dont nous allons parler aujourd'hui, Orature, des histoires vraies, dites sur scène, 10 minutes devant un public qui écoute. Jeudi prochain, ce sera la 3e édition de l'année à l'UBU. Ce soir, nous parlons donc de ces personnes, de ces histoires qui passent au devant de la scène, des non-dits qui se disent. Commençons en allant droit à l'essentiel. Quel concept se cache derrière Orature ? De quoi est-ce qu'il s'agit ? Un podcast, un spectacle ?
Ouais, c'est un podcast live. C'est pas forcément facile à dire, hein, podcast. Mais c'est un podcast live, ça veut dire que on arrive sur scène, on raconte son histoire devant des gens, devant un public. C'est live streamé. Et puis ensuite, c'est rediffusé sur les plateformes.
Et donc, quand on vient à Orature pour la première fois, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre concrètement en entrant dans la salle à une scène avec des gens qui vont faire un podcast ? Comment on visualise un podcast en live ?
Eh bien, avec des gens, déjà. C'est ça, hein, parce que ici, à la radio, il n'y a pas de public, mais vous êtes là. Eh bien, un podcast live, c'est ça, c'est des personnes qui prennent la parole, qui sont sur scène. Et quand on arrive, c'est déjà à l'UBU. Donc, c'est une scène qui est connue des Rennaises et des Rennais. Et puis, on n'a pas l'habitude d'être dans le calme à l'UBU. C'est plutôt survolté. Alors que là, on va parler de sujets parfois un peu délicats. Et donc, on va s'asseoir confortablement. Il y a une vraie proximité entre les auditeurs, entre les spectateurs et les porteurs d'histoire. Et donc, on voit des personnes qui ont le courage de prendre la parole et d'aller raconter ce qu'ils ont vécu.
Et de quoi est née Orature et quand est-ce que c'est né ?
Eh bien, l'édition pilote est née en octobre 2024. C'est donc, ça fait un an. La première thématique, c'était sur sauver des vies. Et donc, on a eu une anesthésiste réanimatrice qui a pris la parole pour raconter son expérience lors du confinement et des transferts. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais lorsque, pendant le premier confinement, il a fallu transférer les malades du Covid parce que les hôpitaux étaient saturés et ils ont été transportés en TGV à Rennes et dans d'autres hôpitaux, eh bien, il y avait des médecins qui ont accompagné ces personnes-là, des personnes qui étaient en fragilité extrême. Et donc, elle est montée sur scène et elle a raconté ce qu'elle a vécu de l'intérieur, ce que personne d'autre ne connaissait. Et donc, en réalité, Orature, c'est parler de ces histoires vraies, parler de ces moments qu'on traverse tous, qu'on ne connaît pas parce que c'est dans notre intimité, parce qu'on ne prend pas la parole, parce que parfois on pense ne pas être légitime à parler, parce que parfois on vit des choses que beaucoup de gens vivent, mais on a besoin de rompre avec cette solitude. Et donc Orature, c'est né de cette volonté de dire à chacun que on est tous légitimes à raconter son histoire et que toutes les histoires sont importantes. Et puis après, pour aller un peu plus loin, c'est en réalité aussi beaucoup inspiré des podcasts nord-américains et anglo-saxons comme The American Life et The Moss, notamment The Moss, en fait, qui est vraiment la mecque et le programme podcast radio extrêmement connu du storytelling américain et qui se passe comme ça, en fait, sur scène pendant 10 minutes et sans notes, sur tout un tas de thématiques. Et donc, on s'est dit, mais pourquoi ça n'existe pas en France ? Il faut pouvoir l'importer. Y apporter notre sensibilité et puis y apporter aussi notre singularité et notre vision. Mais c'est né d'abord d'un podcast The Moss, en fait, dont moi, je suis passionné. Et ensuite, la nécessité de dire aux gens, vous aussi, vous avez la possibilité de prendre la parole, d'aller sur scène. Et on n'a pas que des gens des médias, du théâtre, de la télévision qu'on peut voir tout le temps sur scène.
Bah là, pour ça, je vais citer votre site, le site d'Orature. Nous invitons 5 personnes de tout horizon à venir partager une histoire de 10 minutes sans notes. Que vous soyez un astronaute, un employé de la fonction publique, un étudiant ou...
Ça y est, vous l'entendez ? Ça y est, elle s'est cognée, le petit chat.
On est en direct, c'est
ouais,
normal.
On est en direct. Et en fait, les personnes qui assistent à Orature, en fait, ils sont comme Ariane, parce que les histoires sont vraiment extrêmement poignantes. Lors de la dernière édition sur les ruptures familiales, on a des personnes qui se sont dit, des porteurs d'histoire, qui se sont dit « Moi, je ne peux pas prendre la parole, en fait, c'est trop dur pour moi. » Et je me souviens de Nina, qui, lorsqu'elle est montée sur scène pour prendre la parole, en fait, s'est mise à pleurer parce que c'était trop. Évidemment, après, elle s'est ressaisie. Et puis, comme Ariane, tu te ressaisis. Voilà.
Ça va aller,
mon chat. C'est le soir. Et ton père, il t'amène ici. Et donc, en fait, elle s'est ressaisie, en fait, parce qu'elle s'est dit, mais j'ai le droit de raconter mon histoire. Elle est difficile, mais j'ai le droit de raconter mon histoire. Et pour cela, les personnes, les porteurs d'histoire, on les appelle comme ça, les orateurs et les oratrices, mais on les appelle les porteuses et les porteurs d'histoire, sont accompagnées. Elles sont accompagnées par Ariane. Ma fille s'appelle Ariane. Et l'accompagnatrice des porteurs d'histoire s'appelle également Ariane, que je salue vraiment à ce micro-là, parce que Orature ne pourrait pas être Orature sans sans elle. Et parce que les gens, en fait, n'ont pas l'habitude de la scène. Ils ne savent pas comment prendre leur histoire. C'est leur histoire, ça leur appartient. Mais où je commence, par quoi je finis, quels sont ces moments extrêmement importants qu'il va falloir en fait, que je dise. Mais je ne peux pas tout dire parce que j'ai que 10 minutes. Donc Ariane les aide à structurer ce récit-là. Et ensuite, il y a un atelier collectif où les porteurs d'histoire se rencontrent pour la toute première fois, font connaissance, partagent leur histoire avant d'aller la partager en fait, devant les spectateurs, devant presque une centaine de personnes.
Et les porteuses et porteurs d'histoire s'inscrivent via un formulaire, si je ne me trompe pas. N'importe qui peut participer. Donc comment est-ce que vous sélectionnez ces 5 personnes qui, plus que d'autres, quel profil plus que d'autres?
Eh bien, on les sélectionne déjà parce qu'il y a une thématique. La thématique 2025, c'était sur les ruptures et les liens. On a voulu commencer par cette thématique parce qu'on se rend compte à quel point on est dans une société qui est en crise de liens. Il faut pouvoir les reconstituer. Et évidemment, en fait, si elles ont été... si ces liens n'existent plus, c'est parce qu'il a existé des ruptures. Donc, on a décidé de faire des ruptures, une thématique sur les ruptures amoureuses, qui a été extrêmement poignante, une sous-thématique ou une édition sur les ruptures familiales, celle-ci aussi a été extrêmement importante, et sur les ruptures professionnelles. Donc ça, c'est jeudi 18 à l'UBU. Et donc, on fait un appel à histoire sur ces thématiques-là, mais tout le monde peut, sur sa propre histoire, proposer son histoire. Et puis ensuite, nous, on regarde en fait quelle est pas la légitimité, parce que tout le monde est légitime à raconter, mais est-ce que l'histoire en fait est quand même assimilée? Est-ce que c'est quand même un peu réparé? Parce qu'au Rature, c'est pas non plus une place pour se réparer, on remplace pas un psy en réalité. Et donc on a pour nous une responsabilité face à ça. Donc tout le monde peut déposer effectivement sur le site orature.fr son histoire, je le recommande d'ailleurs. Et puis ensuite... on prend contact avec eux pour une prochaine édition.
Et c'est là où je voulais en venir, parce que vous parlez de votre rôle qui n'est pas celui d'un ou d'une psy. Vous parlez des thématiques de rupture qui sont quand même parfois assez compliquées. Et vous écrivez sur le site, encore une fois, d'Orature, si tu as besoin de souffler, de te sentir moins seul ou juste de te rappeler que la vie des autres est aussi compliquée, viens. Est-ce qu'on peut y aller de manière optimiste aux épisodes d'Orature? Ce sont des sujets difficiles, vraiment difficiles, qui seront abordés?
Ouais. Alors, il me semble que ça a été dit sur notre Instagram, une publication, mais c'est très, très vrai ce que vous dites là. Et ce qu'on a dit, d'ailleurs, c'est parce que à la fin, on repart toujours avec le sourire. Et en fait, à la fin, on repart toujours avec des histoires extrêmement positives. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Luis Sepúlveda, mais qui a écrit un roman que j'adore, qui s'appelle Le vieil homme qui lisait des histoires d'amour. Et il voulait une seule chose, c'est que les histoires d'amour qu'il lise, hein, ces romans-là, se finissent bien. Et c'est ce qu'on a, Orature. En fait, on a des histoires qui finissent bien. Et par exemple, Brigitte, qui est une des porteuses d'histoires, son histoire, c'est quoi? C'est qu'elle avait une sœur jumelle il y a 38 ans et elle est décédée en fait d'un accident de voiture devant elle. Et il a fallu attendre 38 ans et de passer à Orature pour qu'elle demande à sa famille d'enfin faire une conciliation familiale pour discuter de ce sujet-là. Donc ça a ouvert des nouvelles choses. Et en réalité, c'est parfois difficile, c'est une thématique qui est vraiment difficile, les ruptures et les liens, mais ça a ouvert des choses extraordinaires.
Oui, vous sentez un effet presque... un effet presque thérapeutique, autant pour ceux qui parlent déjà, qui s'expriment, ouais. Mais même pour les gens qui écoutent. Est-ce que vous avez des retours sur cet effet-là, soulageant ou thérapeutique?
Ouais, Brigitte, dont je viens de parler, effectivement. Il y a aussi Mathéo, l'histoire est un peu extraordinaire. C'était la personne... t'as mal?
Oui.
On te fait des bisous et des papouilles. T'aimes bien les papouilles, hein? Ouais, mais c'est ce qu'on fait, des papouilles aux oreilles des gens quand on parle à Orature. On vient réconforter un peu notre cortex là, qui nous travaille énormément et qui nous fait analyser les choses comme parfois on ne devrait pas. Et Orature, c'est la possibilité aussi de prendre un petit peu de hauteur, un petit peu de champ, un peu de recul. Et alors Mathéo, qui est intervenu pour la première thématique sur sauver des vies, en fait, m'a raconté que derrière, ça aboutit à un nouveau podcast, un podcast qu'il a fait sur la SNSM, parce qu'il était sauveteur. Il a raconté comment il a sauvé de la noyade Didier avec ses collègues. Et derrière, ils sont même passés à France 2. Donc ça apporte un éclairage à la SNSM, ça apporte un éclairage aussi à ce métier, ça apporte un éclairage à cet acte héroïque. Et ce qui est vraiment très, très important, c'est que la vocation d'orature, ce n'est pas d'apporter un focus sur un individu ou sur une personne. Ce n'est pas ça. C'est de montrer, en fait, à travers une histoire personnelle et une histoire vraie, toute l'universalité que l'on porte. Parce que des héros comme Mathéo, il en existe plein. On n'en parle pas, en réalité. On n'en parle pas. Et orature, c'est une place, justement, pour parler de ces histoires.
On l'a dit avant, votre podcast de jeudi, il abordera le thème des ruptures professionnelles. Est-ce que vous attendez des sujets en particulier pour cet épisode ? Est-ce que vous avez des...
Vas-y.
Est-ce que vous avez des idées sur ce qui va peut-être se dire au niveau des ruptures professionnelles ?
Non, aucune idée. Alors, en réalité, je connais les histoires parce qu'on les sélectionne, hein, mais on ne rentre pas dans le détail. On va laisser, en fait, ce travail éditorial de structuration de la narration et des histoires à Ariane, hein, et à ses porteurs d'histoire. Donc, on ne raconte pas, on ne diffuse pas publiquement ce que les gens, en fait, ont vocation à écouter, à découvrir sur scène. Il y a quand même un petit peu de surprise là-dedans. Et on essaie de se laisser porter un petit peu face à l'émotion générée par ces histoires que l'on découvre.
Donc, juste pour finir, quand on se rend...
Courage Ariane, c'est la dernière question.
On arrive au bout.
C'est original, non ?
C'est inédit.
Hein.
Quand on se rend à un podcast, ouais, un live d'orature, ça veut dire que ce soit en live YouTube ou alors sur place, on a aucune idée des thèmes qui vont être abordés, des profils. On peut aussi bien se retrouver avec un ou une étudiante, un ou une retraitée. En tant que spectateur, on ne sait pas quels sujets seront abordés.
Alors, c'est une excellente question que je vais détourner un peu, en réalité.
Je vous en prie.
Ouais. On ne sait pas qui on va trouver face à nous. On ne sait pas quels sont les profils, hein, des porteurs d'histoire. Et j'ai un petit appel, en fait. C'est que, orature, vous l'aurez compris, il y a une forme de fragilité, de vulnérabilité. Ça veut dire que quand on va sur scène... On monte ses émotions, on se met à nu. Il y a une forme de vulnérabilité très importante. Et on constate qu'une très large partie des porteurs d'histoire sont des porteuses d'histoire. Les gens, peut-être 80 ou 90%. Et les hommes, c'est un peu l'analyse que l'on fait, ont des difficultés à faire ce travail-là. Donc la certitude, c'est qu'on va trouver quand même majoritairement face à nous des femmes qui vont raconter leur histoire. Et ce que l'on aimerait bien, en fait, c'est de mettre tout le monde sur un pied d'égalité et que chacun puisse s'ouvrir et raconter, en fait, une part de soi.
Donc on arrive au bout de cette interview qui aura été sûrement aussi vivante qu'un épisode d'orature, en tout cas aussi authentique. Pour rappel, jeudi 18 décembre 2025, c'est la troisième et dernière édition de l'année pour Orature. Le thème, les ruptures professionnelles, ce sera en présentiel à l'UBU à Rennes avec un prix d'entrée libre et aussi en direct sur YouTube, j'oublie rien.
Ouais, non, c'est exactement ça. C'est un prix libre à partir de 5 euros. L'idée, c'est de pas de fixer un tarif, mais c'est de permettre à tout le monde de pouvoir venir. Le financement, il est autofinancé effectivement par ce studio que j'ai créé et que je gère. On fait quelques podcasts, Changer de main, Nouveau récit, Orature. Et on peut soutenir évidemment l'initiative sur orature.fr. On avait fait une campagne de crowdfunding en mars dernier, qui nous avait permis de récolter quelques 4000 euros. Mais il faut savoir qu'Orature, c'est un programme qui coûte relativement cher, 7000 euros par édition, 28000 euros par saison. Et donc peut-être que pour l'année prochaine, en 2026, on aura l'occasion de faire appel à vos dons.
Ben, ça sera avec plaisir. Fouad Souak, entrepreneur fondateur de l'agence Précis et du podcast Orature, vous étiez avec nous ce soir. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à votre fille.
Merci
également,
Ariane,
pour ces interviews. Bonne soirée sur CELAB.
6h avant minuit.
C'est mardi, le mardi c'est chronique fake news et ce soir c'est Roman qui décrypte une fausse information. Je crois que c'est encore à cause de TikTok ce soir.
Encore TikTok, oui. Si vous avez reçu de l'argent à votre anniversaire, que vous percevez de l'argent de poche ou d'autres dons de vos proches, attention, il faudra le déclarer au fisc à partir de janvier 2026.
C'est pas vrai.
Et non, c'est une fake news.
Tu me rassures.
Tout part d'un post sur X publié le 24 novembre dernier. Le message affirme qu'à partir du 1er janvier 2026, il faudra déclarer en ligne tous les dons d'argent, familiaux, amicaux, même les plus modestes. Quelques jours plus tard, une autre publication renchérit. Cette mesure toucherait des millions de Françaises et de Français et renforcerait le contrôle fiscal sur les petites sommes. Et là, évidemment, ça s'emballe.
À partir du 1er janvier 2026, l'État a fait une nouvelle règle pour te prendre un peu plus d'argent. Pour te prendre le peu d'argent qui te reste. À toi et à tes enfants.
Vous offrez par exemple des bijoux à votre petite fille et pam, vous allez sur impots.gouv.fr et vous le déclarez. Et ça a été confirmé par le ministère de l'économie et des finances. Vous le voyez ici d'ailleurs, la déclaration devra être réalisée en ligne parce que l'objectif de l'État, c'est de vous prendre 60% du don que vous
réalisez. Et se dire que maintenant, même quand tu vas faire un virement de 100 balles à ta mère ou à un de tes frères, il va falloir le déclarer, ça me fait gerber personnellement. Encore, hein, heureusement qu'il nous reste l'espèce, mais bon, un jour ou l'autre, de toute façon, ils nous passeront à l'euro numérique et on sera tous baisés.
Ils vont tout te prendre. Maintenant, même tu respires, ça va être taxé. Je comprends pas.
Donc pour les anniversaires, pour toutes les fêtes, les machins, les trucs, impots.gouv.fr. Vous déclarez, vous vous faites taxer et bienvenue dans la France de Macron. Bon courage à ceux qui vont survivre.
TikTok s'indigne, Facebook s'affole, des vidéos cumulent des dizaines de milliers de vues. Certains assurent que même l'argent de poche de Noël deviendrait imposable. On a même entendu ces affirmations sur Devinez quoi ?
Une chaîne d'information en continu ?
Mm-hmm.
C'est News ?
Dans le mille.
C'est pas vrai, toujours premier sur l'info.
Mais alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On remet tout au clair. Alors oui, il y aura bel et bien du changement en 2026. À partir du 1er janvier, la déclaration des dons importants se fera exclusivement en ligne sur impots.gouv.fr. Et c'est tout. Il ne s'agit pas d'une nouvelle obligation fiscale, mais simplement la fin des formulaires papier. Parce que jusqu'ici, on pouvait déclarer certains dons en ligne ou en remplissant un CERFA. Mais en 2026, on dématérialise tout. Et tout se fait uniquement en ligne, pas plus, pas moins. Ça a été confirmé par la Direction Générale des Finances Publiques.
Et donc la question qui affole tout le monde, est-ce qu'il faut déclarer les petits dons familiaux, Romane ?
C'est un grand non. Et rien n'a changé à ce sujet. Les cadeaux d'anniversaire, pas besoin de déclarer. L'argent de poche, non plus. Une enveloppe de 50, 100, 500 euros par une grand-mère à son petit-fils, toujours pas à déclarer. La DGFiP l'explique clairement. Personne n'a déclaré d'argent de poche, même une somme offerte à Noël, à un mariage ou pour un diplôme. Pas de déclaration tant qu'on reste dans le raisonnable.
Le raisonnable, c'est-à-dire ?
Oui, uniquement les dons exceptionnels qui sortent de l'ordinaire doivent être déclarés. Ça concerne les montants très élevés, les dons disproportionnés par rapport aux revenus du donateur et un bien de valeur comme une voiture, un bijou ou une œuvre d'art. Par exemple, une grand-mère au RSA qui donnerait 10 000 euros d'un coup à son petit-fils, là oui, c'est déclarable. Mais pas imposable pour autant. Alors pas d'inquiétude la team, pour vos billets d'anniversaire, le fisc ne débarquera pas chez vous. Et pas de panique Héloïse, tu peux te permettre de me donner une enveloppe bien dodue à Noël.
C'est noté, merci Romane pour tous ces conseils. Bah, celui pour qui c'est une bonne nouvelle, c'est l'Afghan, hein, parce que ça va tomber les bifetons aujourd'hui. Hein ? Bon,
non,
en attendant, je te laisse
non.
Checker le répondeur. Avant les billets, les messages vocaux. On écoute.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Bonjour Radio Syllab, je viens vous voir parce que je voulais vous poser une petite question par rapport à l'émission 6 heures avant minuit. Je voulais savoir si l'Afghan passait une bonne journée d'anniversaire. joyeux anniversaire Lafken, mon meilleur pote. Je t'aime de tout mon cœur, mais ça tu le sais déjà. J'espère que tu vas passer une bonne soirée, une bonne journée d'anniversaire et j'ai hâte de te voir. Bisous mon pote.
Bonsoir Syllab, je voulais savoir si... Et non, c'est un prank, bon anniversaire Lafken.
Salut Lafken, c'était pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Écoute, j'espère à ce soir. Gros bisous à toi, c'était Elliot. Salut.
Salut mon petit Lafken, c'est Igor. Bon anniversaire mec. Et puis deviens un monstre. Et puis t'as fait des bisous. Allez, salut.
Je souhaite un excellent anniversaire à Lafken Zepeda. Que la force de Pichocha soit avec toi. Miaou, bonjour Lafken. C'est Pichocha. Je te souhaite un joyeux miaou anniversaire.
Salut à toute l'équipe. Du coup, c'était un petit message pour déjà vous dire à tous et à toutes que j'adore votre émission. C'est vraiment très agréable de vous écouter et c'est vraiment super. Je vous écoute tous les jours. Je suis votre premier fan, normalement. Et surtout, je laisse un petit message particulièrement adressé à Monsieur Lafken pour lui souhaiter un joyeux et bel anniversaire aujourd'hui. Donc, joyeux anniversaire et ce serait cool qu'on puisse fêter donc ton anniversaire et le mien au retour des vacances de Noël. Comme ça, ça sera l'occasion de tous se revoir et de faire des afters. Allez, passez une belle journée et j'ai hâte de vous écouter ce soir. Allez, à plus, ciao. Oui, alors c'est de nouveau moi. Alors, c'était juste pour dire, Lafken, te laisse pas faire par Roman et Estelle, hein. Lâche rien, je suis avec toi, hein. Et aussi pour dire à ma chère et tendre bien-aimée que je l'aime. Passez une belle journée.
Bonne Lafken.
Salut, compagnon, Zico.
Bah, des gros bisous pour ton anniversaire, travaille bien. Aussi, petit message, donc t'écoutes là, parce que tu réponds pas aux appels, t'as ta collection aux vinyles de Patrick Sébastien qui traîne dans ta chambre, là, depuis une semaine, et mamie t'a appelé, elle veut que tu lui rendes son collier, voilà, donc, bah, gros bisous.
Bisous, bisous, et n'oublie pas aussi tes CD de Michel Sardou que t'as laissé ici. Bisous, ciao.
Ciao, moi.
Joyeux anniversaire la sienne, j'espère que tu passes une super journée d'anniversaire, en tout cas moi je pense fort à toi, j'espère que tu passes une bonne journée, je t'aime mon amour.
Hola la sienne, c'est tu maman, te deseo un feliz cumpleaños, mi guaguita tan grande, te amo mucho.
C'était mignon, mais c'est mignon tout plein. J'ai pas le droit d'avoir les larmes aux yeux à la radio, si, et de toute façon, vous ne verrez même pas ceux qui écoutent. Mais merci, et j'ai noté les noms de tout le monde, donc je vais remercier un par un. Mathias, Yvan, Elliot, Igor, Pierre, Pitchecha, Givi, Papa, Ilouen, Corentin et Maman, merci beaucoup. Et moi, je vous aime de tout mon cœur aussi, je vous aime très très fort et j'ai hâte de revoir tout le monde.
Oh, bande c'est de nous qu'on va mignons. Pleurer là. Et ben pour nous souhaiter les anniversaires ou autres, hein, nous faire des retours sur notre travail aussi, 02 30 96 25 35. Merci tout le monde d'avoir joué le jeu pour la nuit de Lafken, c'était trop beau. Je vous jure, il est en train de pleurer là. Merci Timothée pour la technique. À demain dans 6 heures avant minuit.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe. La radio sauvage.